Bonjour et bienvenue dans ce 29e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle de la honte, cette émotion douloureuse qui peut se transformer en sentiment durable et envahissant, en m'attardant particulièrement sur ses liens avec l'histoire familiale. Alors qu'est-ce que la honte ? Pour le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, la honte est le résultat de l'altération de trois domaines essentiels sur lesquels nous construisons notre identité. L'estime de soi, l'affection que nous ressentons pour nos proches, et notre sentiment d'appartenance à une communauté. Pour le dire autrement, la honte apparaît dans des situations dans lesquelles nous nous sentons dévalorisés, nous n'avons plus l'impression d'être aimés de nos proches, ni d'être reconnus comme membres d'une communauté, d'un groupe humain, ou même de l'humanité tout entière. Ce qui implique que plus un enfant a été dévalorisé par ses parents, plus les liens d'attachement qu'il a construits avec eux sont insécurisants, plus il sera sensible à la honte dans le lien à l'autre. Serge Tisseron nous met d'ailleurs en garde, je le cite. Mettre la honte en jeu dans l'apprentissage de la propreté, du langage ou de la vie sociale, c'est ouvrir chez l'enfant une porte que tous ceux qui voudront plus tard lui imposer leur volonté n'auront qu'à pousser à leur tour. La honte imposée à l'enfant, y compris pour des raisons éducatives, est aussi la meilleure alliée du séducteur. Celui-ci dit à l'enfant : une brave petite fille ou un brave petit garçon doit avoir honte de ne pas obéir. Quitte à ce que, sitôt la séduction consommée, la honte soit invoquée sous une forme opposée. Si tu parles de ce qui s'est passé, toute la honte retombera sur toi. L'enfant chez qui un adulte a ouvert les voies de la honte devient une proie facile pour tous ceux qui souhaitent la servir à leur désir. Je referme cette parenthèse sur l'éducation à la honte qui n'est pas l'objet de cet épisode, mais il me semblait important d'en parler. Honte et culpabilité sont souvent confondues. Dans la culpabilité, il y a la notion de faute, qu'elle soit réelle par rapport à la loi ou des règles sociales, ou subjective par rapport à des règles que l'on s'est soi-même fixées. Cette notion de faute s'accompagne de la possibilité de se racheter. Dans la honte, il n'y a pas spécifiquement de faute commise, mais plutôt un sentiment d'infériorité et de non-conformité par rapport au groupe, qui donne envie de rentrer sous terre, de devenir invisible ou de fuir. Dans la culpabilité, on va essayer de réparer sa faute pour être réintégré au groupe, alors que la honte va plutôt nous inciter à fuir le regard de l'autre. Même si ces émotions sont très proches et souvent éprouvées en même temps, on peut se sentir coupable sans se sentir honteux, ou se sentir honteux sans se sentir coupable. Revenons à la honte qui donc, vous l'aurez compris, est toujours un sentiment social, comme l'a défini Serge Tisseron, puisqu'elle s'exprime dans le lien à l'autre. J'ai honte par rapport aux autres. Et en cela, elle a des effets structurants, car quand elle se manifeste, elle est le signe que nous nous reconnaissons comme sujet d'un groupe, que nous avons le sentiment d'exister pour les autres et que nous manifestons notre volonté de rester sujet de ce groupe. Primo Levi a raconté que les déportés dans les camps de concentration ne ressentaient même plus la honte. Face à l'horreur de ce qu'ils vivaient, ils n'avaient même plus le sentiment d'appartenir à un quelconque groupe, ce qui était bien sûr l'objectif des nazis, d'anéantir complètement leur identité, et qui commençait d'ailleurs par l'attribution d'un numéro de matricule à la place de leur nom. La honte s'est manifestée seulement lorsqu'ils sont sortis des camps et qu'ils ont lu l'horreur de ce que les nazis avaient fait d'eux dans le regard de leur libérateur, au moment où ils se sont à nouveau sentis appartenir à un groupe humain. Mais paradoxalement, alors qu'il est le signe que nous nous inscrivons dans le lien à l'autre, et qu'il peut dans certains cas jouer le rôle de signal d'alarme pour nous pousser au changement, lorsque ce sentiment de honte n'est pas nommé, qu'il devient trop intense ou qu'il s'inscrit dans la durée, il devient toxique pour la personne qui l'éprouve. Il peut alors provoquer une réaction de repli sur soi qui mène à la dépression et à la désocialisation. Il peut pousser l'individu dans des addictions pour oublier sa honte, ou l'amener à déclencher des attitudes agressives vis-à-vis d'autrui, qui perturbent, bien sûr, profondément la vie relationnelle. Un des facteurs qui enferme dans une honte intériorisée destructrice est la difficulté à la nommer. La honte est une émotion souvent gardée secrète. C'est dur de dire « j'ai honte ». D'ailleurs, on dit plus facilement « c'est la honte ». Car dire sa honte, c'est s'exposer à ce regard de l'autre qui justement nous fait peur et qui pourrait valider notre honte. Elle est d'autant plus dure à nommer qu'elle se cache parfois sous d'autres émotions qu'elle provoque, comme la colère, la rage ou la tristesse. Le sentiment de honte peut avoir différentes origines. Pour simplifier, disons qu'il y a des situations où nous avons honte de nous-mêmes, dont je ne parlerai pas spécifiquement dans cet épisode. Honte d'un trait de notre personnalité, d'une caractéristique physique ou d'un acte que nous avons commis par exemple. Mais ce peut être aussi une honte d'humiliation, celle que l'on ressent lorsqu'on a été victime de violences physiques ou verbales. Je vais plutôt me pencher dans la suite de cet épisode sur les situations où nous avons honte de notre famille et celles où nous ressentons la honte d'un membre de notre famille, comme si c'était la nôtre. La honte qu'une personne ressent vis-à-vis de ses parents ou sa famille, qui peut avoir différentes origines, est toujours à mettre en lien avec le contexte culturel et historique dans lequel elle apparaît. En tant que sentiment social, la honte est par nature étroitement liée aux jugements moraux d'un milieu culturel et d'une époque. Autrement dit, ce qui est source de honte à un moment donné ne l'est plus nécessairement pour les générations suivantes. Il y a eu une époque où les enfants avaient honte d'avoir des parents divorcés ou de vivre avec une mère célibataire, par exemple. Lors de mes accompagnements, on me raconte régulièrement la honte ressentie dans l'enfance, vis-à-vis d'un parent différent des autres parents par ses caractéristiques physiques, sa fragilité psychique ou sa situation sociale. Par exemple, un père en situation de handicap ou qui exerce un métier dévalorisé par la société, une mère alcoolique ou souffrant d'un trouble psychique. J'entends aussi la honte ressentie dans l'enfance par certains enfants d'immigrés vis-à-vis de leurs parents qui ne parlaient pas la langue du pays et qui ne pouvaient pas se débrouiller tout seuls. Cette honte ressentie dans l'enfance aura des effets différents pour chacun, notamment en fonction de l'âge auquel elle surgit, de son intensité, de sa durée, des ressources internes et externes dont dispose l'enfant. Mais on peut dire globalement que comme l'enfant se construit par identification à ses parents, cette honte de son parent peut se transformer en une honte de lui-même, qui sera à l'origine de souffrances psychiques à l'âge adulte et pourra créer toutes sortes d'empêchements dans la vie relationnelle et professionnelle. Il y a aussi des situations où le sentiment de honte de sa famille apparaît à l'âge adulte. Et je pense particulièrement à la honte sociale qui se manifeste lorsqu'une carrière professionnelle ou un mariage provoque un changement de classe sociale qui nous fait regarder nos parents avec honte. C'est cette forme de honte qu'on retrouve dans la névrose de classe décrite par le sociologue Vincent Goljak, dont je vous ai parlé dans l'épisode sur le parcours professionnel. C'est cette honte de la culture, des habitudes de vie, du langage de leurs parents qu'ont décrite Annie Ernaux, Édouard Louis et Didier Ribon dans leurs ouvrages. La honte de sa famille s'accompagne souvent d'une honte d'avoir honte qui la rend particulièrement indicible. Elle peut se manifester notamment par une colère contre sa famille ou une agressivité latente dans les relations familiales. Colère qui peut aussi parfois se tromper de cible et se retourner contre le conjoint ou les enfants. Dans un autre registre, à l'âge adulte, certains peuvent ressentir ce que Serge Cicéron a nommé une honte d'expiation, c'est-à-dire qu'ils ont honte des actes d'un membre de leur famille, qui lui, par contre, n'a pas honte. C'est par exemple la honte qui est ressentie par certains enfants ou petits-enfants de nazis ou de collaborateurs du régime de Vichy. Dans son livre « Des gens très bien », Alexandre Jardin dénonce la collaboration étroite de son grand-père au régime de Vichy et évoque sa honte d'appartenir à cette lignée, qu'il a masqué pendant des années par une fausse légèreté. Issu de la honte, j'ai choisi le rire, un rire longtemps forcé, nous dit-il. Cette honte d'expiation, qui peut devenir une honte de soi en tant que membre de cette famille, peut se manifester sous forme de symptômes très variables d'une personne à l'autre, comme par exemple une anxiété sociale pouvant mener à l'isolement social. J'accompagne en ce moment une jeune femme dont le grand-père faisait partie des SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle en éprouve une profonde honte qui se manifeste à travers un besoin compulsif de visionner des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale et une impossibilité à sortir de chez elle sans être submergée par l'angoisse incontrôlable d'être lapidée sur la place publique ou emmenée par une foule en colère. Nous avons entamé un travail pour qu'elle se libère de cette honte en rendant d'abord symboliquement à son grand-père ce qui lui appartient, ses choix de vie, ses actes et ses opinions. Puis en réalisant un acte de réparation symbolique pour effacer son propre sentiment de dette envers l'humanité. Ce sont des actions de réparation réelles ou symboliques qui semblent en effet soulager cette honte d'expiation ressentie par les générations suivantes. L'écriture en fait partie, D'autres peuvent choisir des engagements auprès d'associations de victimes ou d'autres formes de réparation symbolique. Dans son livre « La honte, mourir de dire », Boris Cyrulnik évoque l'histoire de Romy Schneider, dont la mère aurait contribué à la propagande nazie et qui a, par réaction à la honte qu'elle en avait conçue, donné des prénoms d'origine juive à ses enfants. Si certains ont honte de leur famille, précocement ou à l'âge adulte, et peuvent intérioriser cette honte, d'autres ressentent la honte d'un membre de leur famille comme si c'était la leur. Les deux sources de honte peuvent d'ailleurs se cumuler chez une même personne, ce qui rend le travail sur la honte souvent très complexe. Comment la honte peut-elle se transmettre au sein d'une famille? D'abord, Serge Tisseron a souligné son aspect particulièrement contagieux par rapport à d'autres émotions. Certains d'entre vous ont sûrement déjà ressenti cette contagiosité. Vous savez, ces situations dans lesquelles on dit « Ah, j'ai eu honte pour lui ou pour elle ». Et c'est comme si la honte de l'autre devenait la nôtre, de manière passagère quand il s'agit de quelqu'un d'inconnu, mais beaucoup plus profonde et durable pour les personnes que nous aimons. Un enfant qui grandit avec un parent honteux peut récupérer cette honte, même si elle n'est pas nommée par le parent, et la faire sienne par le mécanisme des transmissions invisibles. Je vous renvoie à l'épisode sur ce sujet. J'ai ainsi accompagné une jeune femme qui me disait se sentir illégitime et inférieure aux autres dans le cadre de ses activités professionnelles, sans comprendre pourquoi. Elle avait choisi un métier qui lui plaisait, pour lequel elle disposait de toutes les compétences, mais quand elle se trouvait en présence de ses collègues, elle se sentait toujours honteuse et avait envie de disparaître sous terre. Après y avoir réfléchi, elle a réalisé que sa mère s'était toujours sentie illégitime dans son milieu professionnel. Issue d'un milieu ouvrier, elle était devenue ingénieure mais s'était toujours sentie à la fois coupable de sa réussite sociale vis-à-vis de ses parents, qu'elle avait l'impression de trahir, mais aussi honteuse de son milieu d'origine et honteuse de ne pas avoir les codes du milieu social dans lequel elle évoluait. Bref, tous les symptômes de la névrose de classe que cette jeune fille avait repris à son compte dans sa propre vie professionnelle, sans en comprendre l'origine. Les secrets de famille ou les non-dits en lien avec un traumatisme sont aussi de grands pourvoyeurs de honte au sein des familles, puisque derrière un secret de famille ou un non-dit se trouve presque toujours un sentiment de honte ou de culpabilité. Par le mécanisme de la crypte et du fantôme, je vous renvoie à l'épisode sur les secrets de famille à ce sujet, la honte d'un parent ou d'un grand-parent qui a été enfoui au plus profond de son psychisme est transmise à ses descendants, qui auront d'autant plus de mal à s'en dégager qu'ils n'en connaissent pas l'origine. Dans un épisode précédent, je vous avais parlé de cette femme que j'avais accompagnée, qui me disait avoir ressenti dès son enfance une honte intense en présence d'autres personnes, particulièrement à l'école, et qui avait finalement compris l'origine de cette honte lorsque sa mère lui avait révélé le secret d'un viol commis par un membre de la famille. Cette jeune femme avait donc hérité, sans rien y comprendre, du sentiment de honte de sa mère, honte d'humiliation, en lien avec le viol, doublée sans doute d'une honte de sa famille. Dans son livre « Mon nom est sans mémoire », Michel Mazarneau évoque la honte qu'elle a ressentie dès sa petite enfance, alors qu'elle ne connaissait pas encore le passé fasciste de son grand-père. Il est vraisemblable qu'elle ait hérité de la honte secrète de son père au sujet de son grand-père. À propos de la honte en lien avec les secrets de famille, Serge Tisseron évoque aussi la honte d'imagination. Sentant qu'on lui cache quelque chose, l'enfant imagine le pire et peut en concevoir de la honte. Il cite notamment le cas des enfants des appelés de la guerre d'Algérie, qui ont pu ressentir une honte à l'idée que leur père, silencieux sur cette période de sa vie, avait commis des actes terribles. Par l'effet de ce qu'on appelle l'après-coup transgénérationnel, le poids d'un sentiment de honte vécu dans sa vie, dont la personne aurait pu se dégager rapidement, peut être décuplé par le poids de la honte des générations précédentes qu'elle porte en elle. Serge Tisseron précise également qu'en plus de la souffrance psychique qu'elle génère, la honte de l'autre en soi sans savoir pourquoi peut pousser une personne à déclencher dans sa propre vie, de manière complètement inconsciente, des situations de honte, comme pour comprendre pourquoi et de quoi elle a honte. Qu'il soit personnel, en lien avec la famille ou transgénérationnel, le sentiment de honte pousse à mettre en place des stratégies pour y faire face. Ce que Serge Tisseron a nommé les aménagements de la honte. Parmi les aménagements destructeurs de la honte, on trouve la résignation, qui peut mener à la dépression, aux conduites addictives, voire même suicidaires. On trouve aussi le sentiment d'être coupable de tout, tout le temps. L'indignation pour tout, qui permet de couvrir sa propre honte. Vous savez, ces gens qui disent tout le temps « mais c'est une honte !» On trouve aussi, comme conséquence délétère de la honte, la violence contre autrui ou la projection de sa propre honte sur quelqu'un d'autre, ses enfants par exemple. On trouve ici les phrases répétées aux enfants du type « tu devrais avoir honte » ou des réactions disproportionnées lorsque l'enfant est soupçonné de manquer de respect à l'adulte. Parmi les aménagements a priori plus positifs de la honte, on trouve l'ambition, dont le moteur est la volonté de ne plus jamais avoir honte, ou encore l'humour. Mais attention, le risque d'effondrement existe toujours derrière ces stratégies, et on l'a vu, la honte qui n'est pas nommée peut venir parasiter le psychisme des générations suivantes. Puisque la honte est liée au regard de l'autre, c'est grâce au regard de l'autre qui restaure l'estime de soi qu'on peut en guérir. Face aux souffrances psychiques provoquées par la honte et à ses conséquences parfois désastreuses sur la vie relationnelle, nommer sa honte, la reconnaître dans le cadre sécurisant d'un accompagnement thérapeutique, c'est commencer à pouvoir s'en dégager et à se libérer de toutes les émotions qu'elle a provoquées, comme la colère, le dégoût ou la tristesse. Plus particulièrement, l'accompagnement thérapeutique avec la psychogénéalogie peut permettre d'identifier l'origine de la honte lorsqu'elle prend racine dans l'histoire familiale, de la resituer dans son contexte familial, historique et social, pour la comprendre, de prendre conscience de la manière dont cette honte est agissante en soi, dont elle s'articule avec une éventuelle honte personnelle, pour pouvoir s'en dégager et retrouver sa capacité d'action. Voilà pour ces quelques éclairages sur la honte. Vous retrouverez comme d'habitude en description de cet épisode les ressources sur lesquelles je me suis appuyée. Et si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, à distance ou en cabinet, rendez-vous sur mon site internet sophieduverne.com. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.